Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Sauveur Bouquet, c'est quelque chose qu'on a expérimenté, je crois, pendant ce confinement, pendant ce télétravail plus ou moins forcé pour certains, pour certaines. C'est vrai que quand on n'a plus la possibilité d'aller parler avec ses collègues, de discuter, d'avoir voilà, d'aller à la cantine, de faire des réunions aussi, pourquoi pas, en fait, on optimise son temps de travail. L'optimisation, c'est quelque chose contre lequel j'essaye de lutter contre moi-même. D'abord, si vous avez lu mon livre, vous savez que j'en parle. C'est vrai que j'ai du mal à saisir comment le fait d'être overbooké, c'est un facteur clé de succès. Ça montre que quelqu'un réussit, ou à l'inverse, ne pas être occupé, ça veut dire que forcément la personne est en échec, qui sont des croyances idiotes et pourtant qui sont très ancrées dans nos sociétés. Et aujourd'hui, je reçois Raaf Harfouch, qui est une anthropologue numérique, qui est une Canadienne avec une origine plutôt anglo-saxonne, et on a énormément de chance parce qu'elle parle également français. Donc on a fait l'épisode évidemment en français. Elle a écrit ce livre qui s'appelle Overbooké en français. Et donc on va parler de tout ça, de cette culture du succès, de cette culture de l'optimisation. Et en particulier, vous le savez, si vous avez un iPhone ou un smartphone de manière générale, les applications de productivité sont celles qui sont les plus téléchargées. On a vraiment cette envie d'optimiser son temps, ce qui est une hérésie évidemment. Donc je vous laisse avec cette conversation et j'espère que vous prendrez justement le temps de l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Raaf.
Bonjour.
Donc tu travailles beaucoup sur cette question de productivité, mais aussi de créativité. Pour toi, pourquoi on est arrivé dans une société obsessionnelle sur la productivité? Ma question, elle est un peu anglaise parce qu'on pourrait se dire qu'on pourrait questionner l'obsession. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on est dans une société obsessionnelle sur la productivité.
Bah, je pense que c'est, je suis d'accord avec cette question. Et en fait, la réponse est un tout petit peu compliquée. C'est une mélange des systèmes que nous avons adaptés de notre passé, du période du temps où les gens faisaient un différent type de travail qui, pour la plupart des gens qui j'ai ciblé pour mes recherches, on s'appelle les travailleurs du savoir, knowledge workers, donc les gens qui travaillent dans un domaine où ils ont besoin de réfléchir, de résoudre des problèmes, de créer des nouvelles choses, des nouvelles produits, services, de collaborer ensemble. Donc c'est un type de travail qui est pas comme les travaux des anciens jours où une personne travaillait dans une usine et faisait la même tâche en répétition. Donc, malgré le fait que notre travail a changé, nous avons gardé la théorie des systèmes de comment on pouvait mesurer la performance. Donc, déjà, les systèmes qu'on utilise pour mesurer la performance n'étaient pas faits pour nous. Et ça nous oblige de toujours être en train de produire, mais de produire d'une manière qui a une définition assez précise. Ça veut dire on doit vous voir travailler. On doit voir le résultat de ce que vous faites tout le temps. Mais pour la plupart de notre domaine, il y a une grande partie qui est pas trop facile à voir. Et c'est cette partie de réfléchir de penser, de juste rien faire pour nous donner le temps de faire tout ce travail mental. Donc, c'est ça, c'est la première partie de la réponse. On a des systèmes qui n'ont rien à voir avec la réalité du travail qu'on fait aujourd'hui. Mmh. Et deuxièmement, c'est que, en plus, en même temps qu'on a commencé à utiliser ces systèmes, on a aussi créé des attentes personnelles où on a commencé à lier notre sens de valeur en soi avec cette idée de toujours être en train de travailler, de toujours être productif. Donc, c'était pas seulement une caractéristique du travail. La productivité est devenue une caractéristique personnelle de comment on se voit, de comment on a donné une définition de si une personne est une bonne personne ou pas. Si une personne est productive, c'est quelque chose de positif et on parle de la productivité personnelle avec cette perspective de positivité. Donc, tout d'un coup, on a des systèmes qui, en fait, ne marchent pas, qui nous donnent du burn-out, qui nous fait malade, nous rend malade. Et en plus, on complique les choses parce qu'on dit que si on ne participe pas dans ces systèmes, que notre sens, notre idée de notre identité, notre place dans la société, notre valeur comme une personne, la valeur ajoutée à la société est aussi réduite. Donc, c'est quelque chose qui est assez émotionnellement puissante, qui explique pourquoi, malgré le fait que tout le monde sache qu'on ne devrait pas travailler jusqu'à ce qu'on devient malade, il y a des gens qui trouvent ça très dur et qui continuent à pousser jusqu'ils ne sont plus capables de travailler du tout.
Mmh. Et toi, tu es américaine ?
Canadienne.
Canadienne, pardon, excuse-moi. C'est pas du tout la même chose. J'ai habité à New York, qui est une ville, j'imagine que tu connais, oui. Dans laquelle la productivité est à son comble. C'est-à-dire que tu as besoin d'être... c'est marrant, dès que je parle de New York, les mots viennent en anglais, mais tu as besoin d'être occupé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une ville où j'ai rarement vu ça, mais c'est-à-dire que c'est une occupation permanente du matin au soir, et c'est une optimisation, surtout de l'optimisation. Moi, c'est ce mot qui me fait un peu peur, ou en tout cas que j'essaye de fuir au maximum, mais c'est une optimisation permanente de ton temps, et même une optimisation quand tu vois tes amis. Est-ce que c'est cette culture américaine, je ne sais pas si c'est une culture américaine d'ailleurs, qui vient aussi en Europe de l'optimisation permanente? Est-ce que c'est aussi une peur du vide, peut-être?
Ben oui, c'est donc si on continue avec cette pensée, avec cette théorie ou cette philosophie que les gens commencent à lier leur propre valeur en soi avec leur travail, donc la prochaine étape devient que je dois toujours être occupée. Parce que si je suis toujours occupée, je suis importante, j'ajoute la valeur et aux États-Unis, ils ont créé une culture où si vous êtes pas productif, c'est du temps gaspillé. Donc, comme on a cette idée du succès, que si on veut avoir du succès, si on veut réussir, on doit travailler très fort, on a aussi absorbé l'inverse de cette idée que si je suis pas toujours occupé, si je ne suis pas toujours en train de faire mon mieux pour réussir, ça veut dire que c'est ma faute que je ne réussis pas. Donc encore, c'est ces deux éléments. La première, que c'est si je suis occupée, ça veut dire que je suis importante, parce qu'on regarde les gens qui sont très occupés dans la société et on dit waouh, regarde, ils sont tellement en train de réussir. Et aussi, si moi je suis pas occupée, ça veut dire que je suis pas en train de poursuivre mes rêves avec une intensité où je vais réussir. Donc, quand j'étais à New York avant COVID, j'étais là pour un week-end et j'ai vu cette phénomène qui était très bizarre parce qu'on était un dimanche, donc le jour de repos. Et j'avais un ami et il me disait, OK, ben voilà le programme pour dimanche. Il y a quatre événements avec quatre différents groupes des amis. On va passer une heure ici, une heure ici, une heure ici, 45 minutes là. Et je me rappelle, je disais, mais ça m'a étonnée. J'ai dit, mais pourquoi ça a l'air en fait d'être un peu stressant? Et pour eux, là-bas, c'est aussi, en New York, il y a aussi beaucoup de FOMO. Donc, comme c'est une ville où il y a toujours des choses qui sont en train de passer 24 heures sur 24 heures, les gens ont toujours cette idée que s'ils sont pas en train de participer, ils sont en train de rater des opportunités de networking, de rencontrer des gens, de faire des choses. Donc, c'était toujours en train avec cette idée de poursuivre le succès. Et je pense que la raison que cette philosophie rentre en Europe, c'est parce qu'il y a aussi des grandes sociétés multinationales qui viennent en Europe avec cette idée de succès de travail qui est plutôt américain. Mais aussi, si on regarde les grandes entreprises de technologie qui ont la plus de puissance, ou au moins qu'on reconnaît au niveau des marques, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple. Donc, toutes ces sociétés, ces entreprises, ils réussissent. Et donc, on a commencé à changer notre définition de succès pour être une définition qui est assez influencée par les entreprises américaines qui apportent avec eux leur propre philosophie de la productivité qui a, comme j'ai parlé avant, toute cette histoire et cette idée de lier la valeur en soi avec le succès. On commence à je ne sais pas comment dire ça en français, à « worship », à…
Dis-le en anglais.
To worship. On est obsédé par les vies personnelles des patrons du groupe, de Jeff Bezos, de Bill Gates, de Mark Zuckerberg. On veut savoir quand est-ce qu'ils se lèvent le matin, comment est-ce qu'ils travaillent. Donc, tout ça, c'est devenu une partie de notre culture de travail, malgré le fait qu'ils ne sont pas des sociétés, ils ne sont pas des entreprises françaises, que leur mode de succès n'est pas super lié à la qualité de vie qui est une grande partie de la vie française. Mais malgré tout ça, on est en train quand même d'absorber ces idées que moi je pense sont assez toxiques et qui sont une collection de mensonges qu'on est en train de voir, de lire, de croire. Et c'est ça où ça devient très dangereux, parce que malgré tout l'effort de la culte de la productivité de nous convaincre que si on travaille comme ça, on va réussir, la vérité est l'opposé. On a le burn-out, on a l'épuisement professionnel d'un état qui était imprévu et particulièrement pendant le pandémique. Les gens sont, ça marche pas. Donc c'est ça qui est ironique en fait, c'est que malgré toutes ces histoires de regarde monsieur ou madame patron de groupe, elle se lève à 4 heures le matin, elle travaille pendant 16 heures, bravo. Malgré toutes ces histoires, la réalité nous montre que ça ne marche pas.
Et alors, c'est ça qui est intéressant. Il y a cette expression, entre autres, sur laquelle je voulais te faire réagir, qui est « work hard, play hard », mais tu vois, qui est partout dans les startups et en particulier dans la Silicon Valley, entreprise auxquelles tu faisais référence. J'aimerais bien comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Tu affirmes que ça ne fonctionne pas. Je pense que évidemment, je suis d'accord avec ça. Et en même temps, moi, je suis quelqu'un d'hyperactif. Donc, en réalité, j'ai un problème avec le vide. Donc, tu vois, j'entends tout ce que tu dis et je sais que toi, tu étais là aussi. Comment tu fais pour te libérer de cette pression sociétale, de cet imaginaire, finalement, autour de la performance?
Je pense que cette expression « work hard, play hard », je sais que beaucoup de startups l'utilisent, mais honnêtement, je ne pense pas qu'ils le comprennent. Parce qu'en réalité, quand on parle de « play hard », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de jouer, de reposer. Donc, en fait, la